Monsieur Wennell et moi-même, ainsi que ma femme, étions au Canada la semaine dernière. C'était très agréable de voir tant d'amis que nous connaissons depuis de nombreuses années dans le ministère. Il y avait aussi quelques-uns que nous ne connaissions pas très bien, très peu, mais c'était aussi un plaisir de les voir et d'apprendre à mieux les connaître, certains d'entre eux. Dans un cas particulier, j'avais entendu le nom, mais je ne l'avais jamais rencontré. Dans un autre cas, il s'agissait d'une personne que j'avais rencontrée, mais seulement quelquefois, très brièvement. J'étais donc très heureux que nous puissions être réunis ensemble et de pouvoir revoir tout le monde. Le Canada est un grand pays. Il couvre 5 fuseaux horaires et demi. Je dis bien la moitié, car Terre-Neuve a une demi-heure de décalage. Et nos ministres sont très dispersés. Dans l'ensemble, nos congrégations sont petites. Je pense que la plus grande se situe entre 70 et 80 personnes, selon le nombre de personnes qui se présentent un jour de sabbat donné. Parfois, les gens sont malades ou ont d'autres raisons pour ne pas venir. Ils peuvent être en voyage. Mais la plupart de nos congrégations comptent entre 20 et 30 personnes ou entre 40 et 50, mais pas beaucoup plus. Et nos ministres sont dispersés, de sorte qu'ils doivent couvrir de nombreuses congrégations différentes. M. Brown, au centre du pays, couvre le Manitoba et la Saskatchewan, et aussi Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a donc, je ne sais pas exactement, 7 ou 8 congrégations, et cela le tient certainement occupé. En fait, dans la plupart de ces congrégations, il est impossible d'organiser un circuit. Nous essayons d'encourager nos ministres à organiser des circuits lorsqu'ils le peuvent, mais lorsque vous dépassez 2 heures et demie de voyage entre 2 congrégations, il est presque impossible d'organiser un circuit tel que nous le concevons normalement. Je pense qu'environ 2 heures et 10 minutes est le temps le plus long que j'ai mis à un circuit entre 2 assemblées, et cela dépend du temps qu'il nous faut pour arriver au premier. Mais nos ministres sont très fidèles là-haut. Ils font face à des défis que nous ne rencontrons pas souvent ici, comme la glace, la neige et le froid terrible. Ceux qui n'ont jamais vécu dans le nord ou dans les montagnes, où il y a de la glace, de la neige et ce genre de choses, sont confrontés à un véritable défi. Je dirais que tout le monde, qu'il s'agisse de ministres, de membres ou d'individus, rencontre à un moment donné des situations plutôt pénibles, et l'on se demande si c'était une bonne idée d'être ici. Mais quand nous sommes jeunes, nous aimons défier les éléments. Je pense que la plupart des hommes aiment sortir et se mesurer à ces éléments, mais c'est parfois dangereux quand il fait froid. Donc vos prières pour nos ministres dans ces régions sont donc très appréciées. De même que pour les ministres dans les autres régions du monde où il est très dangereux de faire le travail qu'ils font pour de nombreuses autres raisons. En fait, pour tous ceux qui sont sur la route, où que ce soit, la situation peut être préoccupante. M. Brown a mentionné que nous sommes venus en contact avec un groupe de personnes qui sont en fait à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ils ne sont pas seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Un groupe de personnes qui se réunissent en ligne. Il ne semble pas y avoir de responsables, mais ils ont quelque chose en commun. Ils observent le sabbat, les jours saints, et peut-être d'autres choses. Ils sont très méfiants à l'égard du gouvernement, de l'autorité en général. Et il y a aussi un certain nombre de partisans de la théorie de la Terre plate. Et ils en sont certains. M. Brown a rencontré certains d'entre eux, mais comme nous en parlions plus tard, après la fin de la conférence ou pendant la conférence, pendant les sessions proprement dites, mon expérience est la même que la sienne. Lorsque vous avez des gens qui arrivent à la vérité par eux-mêmes, pour ainsi dire, ils ne sont pas très enseignables dans la plupart des cas. Ils cherchent simplement d'autres personnes qui croient comme eux. Ils ne se rendent pas compte de la manière dont Dieu travaille à travers son Église. Nous ne nous attendons donc pas à ce qu'il en résulte grand-chose, mais c'était assez intéressant d'en apprendre plus sur eux. Pour vous donner une idée de l'importance de ces groupes dans certaines régions, il y a une ville qui compte 140 habitants, et quelques 80 d'entre eux font partie de l'un de ces groupes. Il y a donc un certain nombre d'endroits de ce type. Ils ont tendance à être plutôt ruraux, mais ils ne sont pas très enseignables, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gens sont gentils cependant, ils ont tendance à être plus jeunes, mais encore une fois, ils se méfient de toute autorité, de tout gouvernement en général, et cela peut être un problème. Pendant la conférence, nous avons passé une grande partie de notre temps à répondre aux questions qui se posent de temps en temps et à nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. La plupart des questions soulevées étaient de nature mineure en général. Il y a eu quelques questions importantes, par contre. Par exemple, l'assistance médicale à mourir, AMM ou MAID en anglais. L'assistance médicale à mourir, apparemment, le Canada est devenu le leader en matière de l'AMM. Vous savez, l'acronyme anglais pourrait être assistance médicale à la mort, mais cela ne sonnait pas bien. Alors, ils ont dû ajouter un I. Donc, au lieu de MAD, M-A-D, qui serait mauvais, qui veut dire méchant, ce qui a fait M-A-I-D. Mais c'est une pratique qui est devenue très répandue. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez quelque chose de grave, quelqu'un viendra vous voir pour vous demander si vous avez envisagé l'assistance médicale à mourir. Au début, c'est une petite chose, mais elle se développe toujours. Il y a actuellement des mouvements au Canada pour qu'un jeune, un adolescent qui est déprimé, puisse voir un médecin sans la permission de ses parents. Il est difficile de dire si l'on en arrivera là ou non, mais c'est la direction que prennent les choses. Ce sont donc de grandes questions auxquelles nous devons répondre. Et parfois, cela semble très simple lorsque les gens pensent « Eh bien, je suis mourant, je ne vais pas vivre, je ne veux donc pas souffrir, je me retire de la vie. » Mais je me souviens d'un certain nombre de personnes qui sont mortes au fil des ans et qui ont souffert. Il y a des leçons que nous pouvons tirer même dans la souffrance. Je me souviens d'une personne au Canada, alors que nous le visitions à l'hôpital, il nous disait à ma femme et à moi, « Je ne veux vraiment pas être guéri. J'attends avec impatience le royaume de Dieu. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, car cela m'a réveillé. J'ai dormi pendant 20 ans et cela m'a réveillé. Je ne cherche donc pas à être guéri, je cherche simplement le royaume de Dieu à ce stade de ma vie. Je me souviens aussi de Mme Beam. Il y a des années, je ne l'ai jamais rencontrée. Je sais que M. Milich l'a rencontrée. Il connaissait bien son cas, mais nous en avons entendu parler il y a 50 ou 60 ans. Elle était littéralement sur son lit de mort, sur le point de rendre son dernier souffle. Et elle s'est redressée et elle a dit « C'est parti ». Elle avait un cancer du sein, elle souffrait terriblement et Dieu l'a guérie. Nous connaissons Howard Clark et d'autres personnes qui ont traversé des épreuves. Tout le monde connaissait Howard Clark au collège. C'est lui qui avait été guéri après avoir été tétraplégique, gravement blessé pendant la guerre de Corée, et il était au collège. Et vous savez que Dieu guérit parfois. Cela peut sembler simple. Je ne veux pas souffrir. Mais lorsque nous prenons en main la prérogative de Dieu, c'est une erreur. Et pourtant, c'est la direction que prend notre monde, et il progressera jusqu'à ce que, si vous êtes un fardeau pour la société, vous fassiez ce qu'il faut pour que vous vous laissiez mettre à mort. Parmi les autres sujets abordés figuraient les anniversaires de naissance. Comme l'a souligné à juste titre M. Wennell, avec tout ce qui se passe dans le monde, cela semble être un sujet assez insignifiant. Pourtant, ce sont les petites choses qui créent souvent les plus grands obstacles pour les gens. Souvent, les gens restent dans une église corrompue d'une manière ou d'une autre, mais une petite chose survient qui les pousse à changer d'avis. Je pense que c'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes qui sortaient de l'Église universelle. Ils ont attendu et ils ont vu le sabbat disparaître. Mais une petite chose, comme le changement de nom ou autre chose, ont poussé les gens à changer. Ce sont les petites choses qui créent souvent les plus grands obstacles pour les gens. Et cela mérite donc d'être discuté pour un certain nombre de raisons. Raison numéro un, cette question est controversée dans l'Église. La célébration des anniversaires de naissance a toujours été un objet de litige dans l'Église. L'Église a toujours fait peu de cas des célébrations d'anniversaires de naissance. Mais au fil du temps, de plus en plus de gens commencent à s'y intéresser, et cela commence modestement, puis prend de l'ampleur. Je me souviens de l'époque où j'étais, je ne dirais pas dans quelle région, c'était dans une région particulière de l'Église. Oh, pourquoi pas, c'était Kansas City. Autant dire où c'était. Ce n'est pas une réflexion sur les individus ici ou là, mais c'était avant que nous quittions l'Église universelle. Beaucoup de gens ne sont jamais sortis de l'universel. Mais il y avait une personne dont la fille allait avoir 16 ans et 80 personnes de différentes familles avaient été invitées. Devinez qui n'a pas été invité. Je vous laisse le soin de le découvrir. Mais vous savez, cela commence petit et puis cela devient vraiment grand. Les récits bibliques sur les célébrations d'anniversaire de naissance ne les présentent pas sous un jour positif. Il est important de le noter. Pourtant, il ressort clairement de la Bible que les gens connaissaient leur âge. Car ce roi avait 20 ans ou 7 ans lorsqu'il devint roi, et il a régné pendant X nombre d'années. Il est donc clair que les gens connaissaient leur âge. Mais le récit biblique de deux de ces cas de célébration des anniversaires de naissance ne les présente pas sous un jour positif. C'est pourquoi, dans le sermon d'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la célébration des anniversaires de naissance. J'espère que nous écouterons tous avec un esprit ouvert et que nous mettrons de côté nos émotions et que nous regarderons la situation telle qu'elle devrait être. Au cours de mes 56 années dans le ministère, j'ai remarqué que la plupart des gens ont un point d'achoppement qu'ils doivent surmonter avant le baptême. Par exemple, le tabagisme. Souvent, il y a des années, pas tellement aujourd'hui, je suppose que ce serait le vapotage aujourd'hui, mais je ne le remarque pas autant, mais les gens fumaient il y a des années, et c'était assez évident car on pouvait sentir l'odeur sur leurs vêtements. Le tabagisme était un problème. Bien que la Bible ne dise pas directement « tu ne fumeras pas », il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous ne fumons pas. La vanité, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'image d'essayer de paraître d'une certaine manière. C'est pourquoi les cigarettes ont toujours été vendues avec des affiches de Virginia Slim à l'allure sophistiquée, ou du Marlboro Man à l'allure d'un cow-boy endurci, etc. Et bien sûr, il est nocif pour le corps humain. Il est intéressant de noter que, lors de nos camps d'été, M. Michael Brown a montré des publicités de magazines datant des années 50 environ, qui disaient même que fumer était bon pour la santé. Puis il a remis les choses au goût du jour, la marijuana médicale, la marijuana, c'est bon pour la santé. Il a montré comment ils ont menti à l'époque, et il y a encore des gens qui mentent aujourd'hui, parce qu'ils ont un investissement financier, ils y ont investi de l'argent. J'ai trouvé que c'était une très bonne approche, parce qu'il aide nos jeunes à apprendre à penser. Il ne s'agit pas seulement d'endoctriner les gens, mais d'apprendre à penser à ces choses. Mais c'était un problème à l'époque. De nombreuses personnes étaient confrontées au sabbat et au jour saint. L'observance du sabbat ou des jours saints était le plus grand problème pour beaucoup de gens. Parfois, il fallait renoncer à des fêtes mondaines comme Noël. Les femmes en particulier sont plus attachées émotionnellement à ce genre de choses que les hommes. Cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'être, mais en général, ce sont les femmes qui y sont attachées, et elles ont beaucoup de mal à renoncer à Noël. Parfois, l'homme venait à l'église et la femme ne le faisait pas à cause de cela, et parfois, elle finissait par entrer dans l'église plus tard. Il y a eu des hommes qui ne voulaient pas se couper les cheveux. Il y a eu le mouvement hippie, le phénomène d'un Jésus aux cheveux longs des années 60. Et tout ce qui se passait à l'époque. Il voulait donc avoir les cheveux longs, des queues de cheval ou simplement des cheveux longs et ébouriffés. Peu importe ce que c'était, il ne voulait pas y renoncer. C'était quelque chose qui, pour certaines personnes, était suffisant pour refuser le baptême, parce qu'elles voulaient conserver leurs cheveux. D'autres personnes ne voulaient pas s'habiller pour les assemblées. Si je dois m'habiller, je n'irai pas. Certains se disent, je n'ai jamais porté de costume, je ne veux pas commencer à en apporter. Bien sûr, la dîme était aussi un problème important pour beaucoup de gens. Il y a eu donc beaucoup de questions qui ont été soulevées. et je suppose que nous pourrions dire que les anniversaires de naissance, dans un sens, sont dans la même catégorie, parce que pour certaines personnes, c'est une chose importante qu'ils ne voudraient pas abandonner, quoi qu'il arrive. Le fait de renoncer à quelque chose ne signifie pas nécessairement que l'on a été conquis par Dieu, car nous savons que beaucoup de ceux qui ont renoncé à divers péchés dans le passé quitteront parfois plus tard en raison de quelque chose de tout à fait différent. Prenons l'exemple d'Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, à titre d'exemple. Il ne s'agissait pas nécessairement de quelqu'un qui quitta, mais il y a une leçon à tirer d'un choix qui a été fait. Hébreux 12, et je commencerai au verset 14. Hébreux 12 et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et plusieurs ne soient infectés. Lorsque nous devenons amers pour quelque chose. En d'autres mots, en colère, mais une colère qui est profondément enracinée et qu'une personne ne fait qu'entretenir. Elle nous aveugle. Il est dit dans Jean que la haine nous rend aveugles. Elle nous empêche de voir la réalité. Ainsi, une racine d'amertume peut amener une personne qui a peut-être renoncé à beaucoup de choses pour entrer dans l'Église à se fâcher pour quelque chose ou quelqu'un dans la congrégation, qu'il s'agisse d'un ministre ou d'un autre membre, cela peut les faire sortir de l'Église, causer du trouble, et par cela plusieurs sont infectés. Puis il dit au verset 16, « À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas se repentir personnellement de son action, mais il ne pouvait pas faire changer la décision. Si vous revenez à Genèse 27, verset 38, vous voyez que ce qui a provoqué ses larmes, c'est qu'il ne pouvait pas revenir sur la décision, non pas qu'il se repentait de ce qu'il avait fait, mais du fait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Dans la version Martin, verset 17, nous dit « car il ne trouva point de lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût demandé avec larmes. » En d'autres termes, la bénédiction, il la cherchait avec diligence et avec des larmes. Nous constatons que parfois les gens sortent du monde d'une certaine manière, mais qu'une petite chose les pousse à tout abandonner. Il y a toujours des choses que les gens refusent d'abandonner. Il se peut qu'il n'apprécie pas le don de Dieu comme il le devrait, ou qu'il laisse une racine d'amertume les emporter. Ainsi, même après le baptême, les gens ont des limites quant à ce qu'ils sont prêts à abandonner. Remarquez ce qui est dit dans Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. J'ai lu ces passages nombreuses fois, mais je trouve intéressant qu'il y ait des cas réels que je pourrais citer, et vous aussi, où les gens étaient prêts à renoncer à beaucoup de choses. Peut-être sont-ils entrés dans l'Église et ils n'ont pas eu à renoncer à beaucoup de choses, mais il y en a qui l'ont fait. Ils ont renoncé à un emploi, ils ont commencé à payer la dîme. Dans certains cas, ils ont renoncé à un mariage parce que leur partenaire n'était pas d'accord, mais quelque part dans leur cheminement, ils se heurtent à un obstacle, à quelque chose qu'ils ne veulent pas abandonner. C'est pourquoi Jésus dit au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, ce qui signifie aimer à un degré moindre, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple, à moins que nous soyons prêts à faire passer le Christ avant tout le reste. Et quand il est question de notre propre vie, il ne s'agit pas seulement de mourir physiquement, mais de notre propre vie, des choses que nous espérons. » Certaines personnes ont dû abandonner leur emploi parce qu'ils n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Je pense à au moins une personne qui était acteur, un acteur que la plupart d'entre vous ont vu au cinéma. au moins pour un film en particulier, et qui est venu à l'ambassadeur collège. Il a dû renoncer à sa carrière d'acteur parce qu'elle n'était tout simplement pas compatible avec une vie chrétienne. Il y a renoncé, mais il a quitté plus tard. Il y a des gens qui ont renoncé à beaucoup de choses, mais les choses arrivent et ils ne sont pas prêts à renoncer à autre chose. Donc, notre vie, c'est notre façon de vivre, nos espoirs, nos rêves, nos attentes dans la vie. Parfois, cela doit être mis de côté. C'est pourquoi il dit au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Nous devons donc placer notre relation avec Dieu et avec le Christ au-dessus de tout. Pourtant, j'ai connu des gens qui disaient, « Personne ne va me dire ce que je dois faire. » Ce fut parfois le cas d'anciens membres de l'Église universelle. Et pas seulement chez les anciens membres, mais chez quelques-uns qui sont sortis de l'Église universelle, qui ont perdu le respect pour le ministère, et c'est compréhensible, parce que beaucoup de ministres étaient infidèles. Certains ministres disaient à d'autres personnes qu'elles devaient abandonner leur travail pour respecter le sabbat, mais ils n'étaient pas prêts à le faire eux-mêmes. C'est ainsi que beaucoup de gens ont perdu leurs illusions. Possiblement certains d'entre vous, j'espère que vous avez surmonté cette désillusion. J'ai eu mes propres désillusions et j'ai dû les surmonter. Mais il y a ceux qui ont l'attitude suivante, eh bien, je ne vais plus écouter personne maintenant. Et ils ont donc leur propre église, leur propre façon de faire les choses, et s'ils veulent venir avec nous, c'est à leurs propres conditions. Dans une congrégation, une personne ne porte pas les bons vêtements. Je veux dire qu'il ne portait que des vêtements décontractés pour se rendre aux assemblées. Et après plusieurs semaines, l'un des membres, au grand cœur, a décidé de lui donner un costume. Il a offert le costume, on pouvait voir que c'était la même taille. Mais l'homme s'est vexé et il est parti. Vous pensez que je n'ai pas le moyen de m'acheter ces choses-là? Et il n'est jamais revenu. Allez savoir jusqu'à quel point les gens sont-ils prêts à renoncer. Ce n'est pas parce qu'ils sont baptisés qu'ils sont qualifiés. C'est pourquoi nous avons des personnes qui n'acceptent pas que quelqu'un leur dise ce qu'elles doivent faire. Elles font leur vie à leur façon. Pourtant, les vrais serviteurs de Dieu sont là pour nous garder unis et éviter les dérives. Quand je pense à des choses comme la société de la Terre plate ou les croyants de la Terre plate, c'est peut-être un extrême. Mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres choses, d'autres conspirations auxquelles les gens veulent s'accrocher et qu'ils veulent promouvoir parmi d'autres, et c'est là que cela devient un problème. Quand les gens commencent à promouvoir leurs idées qui sont contraires à ce que tout le monde enseigne, je trouve cela intéressant. J'ai déjà utilisé l'exemple suivant. Un homme pensait que le livre de Jachère devait figurer dans la Bible. Or, il existe environ 3 différents livres de Jachère à travers l'histoire. Alors, lequel allez-vous prendre? Néanmoins, parce que la Bible dit quelque chose sur Jachère et qu'il y a d'autres livres qui sont mentionnés dans les Écritures qui ne font pas nécessairement partie de la Bible. En fait, nous devons revenir au cours de Bible, où M. O'Gwin a expliqué comment la Bible fut assemblée et pourquoi nous savons que nous avons la Bible complète, si quelqu'un a des doutes à ce sujet. Mais cet individu a reconnu que nous n'étions pas d'accord avec lui, et non seulement nous n'étions pas d'accord avec lui, mais il ne pouvait pas trouver une église de Dieu qui soit d'accord avec lui, et pourtant il allait s'accrocher jusqu'à la mort, et je pense qu'il est mort depuis. Il y a donc des gens qui s'accrochent à certaines choses, car c'est leur identité, c'est eux. Ils ne veulent pas y renoncer. Pourtant, dans Éphésiens chapitre 4, qui nous est très familier dans Éphésiens 4, il est question de l'unité de la foi. Dieu veut que nous soyons unis. Et il nous montre qu'il n'y a vraiment qu'une seule façon d'être unis, et c'est à travers le ministère que Dieu a mis en place pour justement nous garder unis. Éphésiens 4, verset 1, il commence par parler du prisonnier dans le Seigneur, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il dit au verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et que nous devons nous efforcer d'être unis ensemble. » Puis au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il est intéressant de noter qu'il y a des groupes entiers d'anciens membres d'Universel ou de d'autres églises de Dieu qui ne croient pas au poste d'autorité dans le ministère. Et ce n'est pas le seul endroit qui en parle, mais c'est étonnant. Apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi a-t-il placé ces postes de direction dans l'Église? Il dit au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, c'est-à-dire la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je ne connais aucun d'entre vous qui soit un adepte de la terre plate, mais permettez-moi d'utiliser cet exemple. Je ne connais aucun groupe important de l'Église de Dieu. » Et quand je parle d'important, je veux dire qu'il s'agit d'un groupe issu de l'Église universelle. Je ne les nommerai pas tous, mais il y en a un certain nombre ici, certains que l'on pourrait qualifier de légitimes, d'autres qui ne le sont pas autant. Je ne connais aucun ministre de premier plan dans les Églises de Dieu qui croit à la terre plate, et certainement pas dans l'Église du Dieu vivant. On pourrait donc se dire, si je suis tellement en décalage avec toutes les personnes que Dieu utilise pour maintenir l'unité de l'Église, est-il possible que je sois séduit? Est-ce possible? Vous savez, ce sont des questions importantes pour nous, frères et sœurs. Comment avons-nous l'unité dans la foi? Comme il dit ici au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et remarquez le verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Il y a des gens qui inventent littéralement des choses pour essayer de tromper les gens. Et parfois, les gens se laissent prendre à cela. Certaines de ces personnes sont très sincères. Elles prennent la Bible au pied de la lettre, quand ce n'est pas le cas. Mais elles ne sont même pas d'accord entre elles. Certains disent, il y a un dôme ici. Tout est dans un dôme. C'est un cercle, le cercle de la terre. L'expression « le cercle de la terre » ne décrit pas une boule. Je suis d'accord avec cela. Mais alors, que faire des quatre vents de la terre, des quatre coins de la terre? Nous avons maintenant un cube. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Et je n'utilise que cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples de conspirations diverses et de toutes sortes de choses dans lesquelles les gens se laissent entraîner. Ils veulent ensuite en faire la promotion auprès d'autres personnes. Ils veulent des alliés. C'est le cas du groupe dont je parlais tout à l'heure. Je dis groupe, c'est une sorte d'amalgame de pratiquants du sabbat. Souvent, les gens pensent que si l'on observe le sabbat et les jours saints, c'est tout ce qui compte. En réalité, il y a bien d'autres choses qui comptent. Mais cela montre que, par leur ruse dans les moyens de séduction, il y a ceux qui exploitent les gens de cette manière. Et l'Internet, grâce à ses algorithmes, vous place dans une chambre d'écho. Vous croyez à ceci? Vous croyez au QAnon? D'accord, c'est ce que vous obtiendrez. Vous aurez tous les trucs de QAnon. Vous croyez ce que vous croyez? Ces algorithmes le découvrent et ils vous en donnent encore plus. C'est l'un des grands dangers d'Internet. Et nous en sommes tous affectés, probablement plus que nous le pensons, parce que le type de nouvelles que nous regardons est ce que nous allons obtenir de plus en plus. Il dit au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Verset 16, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Comment Dieu nous maintient-il unis? Il parle ici du ministère. Remarquez aussi dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Et je prends ici au verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant. » Comment nous conduisons-nous dans la maison de Dieu? Tout d'abord, nous nous habillons selon certaines normes. Et ces normes peuvent varier d'un endroit à l'autre dans le monde. Si vous allez aux Bermudes, vous pouvez porter un Bermuda, des chaussures de ville, des chaussettes longues, un manteau de sport et une cravate, et vous serez parfaitement à l'aise. Il y fait plus humide, plus chaud, et c'est une question de tenue vestimentaire. Aux Philippines, on s'habille différemment. Mais il y a une norme pour les occasions plus formelles. Et nous nous présentons devant Dieu avec ce que nous avons de mieux, pour ainsi dire. Verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Remarquez que l'Église du Dieu vivant ou l'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Le croyons-nous vraiment? Bien sûr, la première chose à faire est de prouver où Dieu travaille. Et une fois que nous savons où Dieu travaille, nous devrions être assez humbles pour être capables de comprendre quelle est la direction que le Christ donne à son Église. Remarquez dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Il est intéressant de constater que les gens essaient de changer la formulation ici, mais Hébreux 13 verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs » et la marche contient le mot « diriger ». Souvenez-vous de vos conducteurs ou de vos dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est pourquoi certaines personnes veulent simplement changer le mot en guider, ce qui signifie « je peux suivre ou ne pas suivre selon ce que je ressens ». Mais remarquez le verset 17, « obéissez à vos conducteurs, à vos guides, à vos dirigeants, peu importe, il dit « obéissez à vos conducteurs ». Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dieu agit par l'intermédiaire du gouvernement. Et je serai le premier à vous dire que nous n'avons pas un gouvernement parfait, parce que nous sommes des êtres humains, et que nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu utilise son Église pour essayer de nous maintenir dans une certaine harmonie et unité, et non pas pour que chacun fasse ses propres affaires, parce que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour l'Église, cela cause des problèmes. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul n'avait pas peur de dire « Soyez mes imitateurs, suivez mon exemple, comme je le suis moi-même de Christ. » Bien sûr, c'est là que le bât blesse, parce que les gens disent alors « Eh bien, ce n'est pas suivre le Christ, parce que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. C'est un problème. » Monsieur Meredith avait l'habitude de nous dire « On peut juger du niveau de conversion d'un homme à la façon dont il réagit à la correction. » Et c'est tellement vrai. Il m'est arrivé de considérer des personnes comme très converties. Certainement des responsables d'une congrégation, des responsables dans l'Église, et de leur donner une correction très légère. Ce que je voyais comme une correction mineure. Et ils n'agissent pas du tout comme vous l'attendiez. Je me souviens d'un cas où j'ai parlé à un homme qui avait prononcé un sermon dans l'une des régions où j'exerçais mon ministère à l'époque. Je pense qu'il a dépassé le temps imparti, je ne me souviens pas exactement quel était le problème, mais je lui ai dit par la suite très gentiment que c'était quelque chose qui devait changer. Mais très gentiment, extrêmement gentiment. Et je suppose qu'il était d'accord sur le moment, mais j'ai reçu une lettre cinglante de sa femme plus tard dans la semaine. Elle était furieuse que j'ose corriger son mari. » Eh bien, il est mort quelques années plus tard, et elle n'a pas tardé à quitter parce qu'elle fut offensée par un autre ministre à propos de quelque chose d'autre. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, on peut savoir comment les gens prennent la correction. Et je ne la corrigeais même pas, elle. Je ne faisais que corriger son mari, mais je suppose que nous ne faisons qu'un et qu'elle s'est sentie insultée dans ce cas. M. Meredith soulignait ce point, et j'essaie de ne jamais l'oublier, parce que ce sont les petites choses qui vous en disent beaucoup. Dans Proverbe 18, ce verset est toujours sur mon radar depuis que j'ai fait face à un individu qui correspondait parfaitement avec ce qui est écrit ici. Je lui ai lu les versets 1 et 2, Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Les gens s'isolent parfois. En d'autres termes, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils n'écoutent personne. Ils s'irritent contre tout ce qui est sage. Quelles que soient les preuves de quelque chose, ils ne l'acceptent pas. On peut toujours trouver des opinions différentes sur n'importe quel sujet. Mais parfois les gens choisissent qui ils vont croire en fonction de ce qu'ils veulent croire. Verset 2 nous dit, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ce sont là des problèmes. Cela n'est pas utile. Monsieur Armstrong disait que certaines personnes sont converties, mais pas conquises par Dieu. Il a parlé de son propre fils de cette manière. Il disait qu'on lui avait enseigné le sabbat, les jours saints, qu'il avait réalisé que son père avait raison sur ces points, mais il n'était pas conquis par Dieu. Ils sont convaincus ou convertis à la vérité, mais ils ne sont pas entièrement conquis par Dieu. Ils ne sont pas prêts à dire, « Dieu, tout ce que tu veux, c'est ce que je veux faire. » Au sens figuré, certaines personnes n'ont pas entièrement disparu dans l'eau. Ils ont maintenu une partie d'eux-mêmes hors de l'eau. Pourtant, nous devons faire mourir le vieil homme. Dans Romains 6, nous lisons concernant le baptême. Et nous y voyons que le baptême n'est pas seulement une initiation à un club, mais qu'il symbolise la mort du Christ en notre nom, et que nous entrons dans une tombe liquide pour mettre à mort l'homme pour lequel le Christ est mort, le vieil homme. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous devons adopter un nouveau mode de vie. Et lorsque nous sortons de cette tombe liquide, nous ne devenons pas soudainement instantanément parfaits. Il s'agit d'un changement à longue haleine ou d'une approche de la vie qui dure toute la vie. Dieu, montre-moi ce que je dois savoir. Aide-moi à comprendre ce que je dois changer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et comme on nous l'a enseigné, c'était certainement le cas avant mon baptême. Nous ne nous repentons pas seulement des péchés que nous avons commis, nous nous repentons de ce que nous sommes, de notre nature même. Et c'est ce qui doit changer. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous devons nous élever et changer notre mode de vie, et non pas nous accrocher au passé. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne s'agit pas seulement des péchés physiques que nous avons pu commettre. Il s'agit de ce qui se passe dans notre esprit, dans notre tête, de la manière dont nous pensons. Voici comment je vois les choses. Voici ce que je pense. Voici ce que je n'abandonnerai pas. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Non pas libre de péché, mais libéré du péché. Romains 8, verset 13 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est donc par la puissance de l'Esprit de Dieu que nous faisons mourir les actions du corps. Et cela inclut les actes de l'esprit. Ce n'est pas seulement du corps physique. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est un processus continu tout au long de notre vie. Il ne s'agit pas d'une chose à laquelle nous accédons et boum, tout est réglé. C'est un processus qui se déroule tout au long de notre vie. Colossiens 3, verset 5 nous dit, Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Il ne s'agit donc pas seulement des choses physiques que nous faisons, mais aussi des mauvais désirs et de la convoitise, qui est une idolâtrie. Maintenant, avec ce contexte à l'esprit, regardons ce que la Bible nous dit à propos des anniversaires de naissance. La première chose que nous remarquons, c'est que les anniversaires sont mentionnés dans la Bible. Pas très souvent, seulement à trois endroits, peut-être quatre. Mais il n'y a pas de commandement spécifique à leur sujet d'une manière ou d'une autre. Nous devons comprendre que la Bible, ce livre, est la parole de Dieu. Elle est l'expression de Dieu. Certaines choses sont clairement énoncées et d'autres sont discernables à partir de la manière dont Dieu présente certaines choses. Encore une fois, rien ne dit « tu ne fumeras pas »,« tu ne vapoteras pas » ou « tu ne consommeras pas de marijuana ». Mais nous pouvons discerner dans la Bible que certaines choses ne doivent pas être faites. Comme je l'ai dit, il n'y a que trois, voire quatre endroits où les anniversaires de naissance sont mentionnés dans les Écritures. Remarquons le premier dans Genèse 40. Genèse 40. Je sais que pour certains d'entre nous, anciens, c'est du réchauffé. Vous êtes au courant de tout cela, il n'y a rien de nouveau de ce que je vous dis ici. Mais Genèse 40, verset 20, c'est là que Joseph est en prison et qu'il interprète le rêve pour les chansons et le panetier. Genèse 40, verset 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon. Pharaon n'est nullement un serviteur de Dieu, sauf que Dieu l'utilisa. Et ce n'est pas le Pharaon qui vint plus tard. Il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Il s'agit donc de la première mention d'un anniversaire de naissance dans les Écritures, et nous constatons qu'il s'agit d'un roi païen. Et quelque chose d'assez désastreux se produit à cet endroit, non sans la volonté de Dieu. Dieu, agissant par l'intermédiaire de Joseph, a donné un sens au rêve de ses deux serviteurs, mais c'est ce qui est arrivé. Dans le livre de Matthieu, nous lisons le deuxième récit d'un anniversaire de naissance. Dans Matthieu 14. Matthieu 14. Encore une fois, je pense que la plupart d'entre nous sont familiers avec ce récit, je n'avais pas y consacré beaucoup de temps. Regardons Matthieu 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Il s'agit donc d'une grande fête, il s'agit d'Hérode, qui n'est certainement pas un serviteur de Dieu. Verset 8, à l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11, sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. C'est une scène atroce. Mais c'est ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire d'Hérode. Ce récit est repris dans Marc 6. Nous ne le lirons pas, mais Marc 6, versets 21 à 28, donne le même récit. En réalité, nous n'avons que deux anniversaires de naissance, mais ils sont mentionnés à trois endroits différents. L'un était l'anniversaire de Pharaon, l'autre l'anniversaire d'Hérode. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il s'agit d'une grande fête. Deuxièmement, il ne s'agit en aucun cas de serviteur de Dieu. Il y a un troisième exemple possible, et c'est celui du livre de Job. Je dis possible parce que nous ne le savons pas, mais c'est un peu suspect. Dans Job, chapitre 1, au verset 4, Job 1, verset 4, il est dit dans la version Darby, « Et ses fils allaient et faisaient un festin. » Il y avait donc une fête, une célébration. Chacun dans sa maison a son jour. Il y a donc une sorte de festin qui se déroule. Chacun a son jour. Nous voyons qu'il est dit qu'ils festoyaient dans leur maison, chacun a son jour. La question est maintenant de savoir ce que veut dire son jour. Si nous devions regarder cela dans le contexte moderne d'aujourd'hui, aurions-nous une idée de ce que cela pourrait être? Quel est votre jour? Inscrivez-y votre nom. C'est mon jour. Quel que soit votre âge, quel est votre jour? Nous ne savons pas s'il s'agit d'un anniversaire de naissance ici, mais c'est très suspect. Job 1, verset 4. Ils envoyaient appeler leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Apparemment, Job n'était pas invité. Et il arrivait que quand les jours de festin étaient terminés, quand les fils et leurs sœurs avaient achevé leur célébration, Job envoya vers eux et les sanctifiait. Ils se levaient de bonne heure le matin et offraient des holocaustes selon le nombre à tous, car Job disait peut-être que mes fils ont-ils péché ou ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job faisait toujours ainsi. Il y a donc beaucoup de choses à dire. Il dit qu'ils ont peut-être péché. Ils ont peut-être maudit Dieu d'une manière ou d'une autre dans leur cœur. Il y a probablement eu beaucoup de nourriture et de boissons. Apparemment, il y avait une grande célébration à ces occasions. Nous ne savons donc pas s'il s'agit d'anniversaire de naissance, mais certains ont suggéré que c'était le cas. Et si ce n'est pas le cas, il est difficile d'imaginer ce que cela pourrait être. Cela pourrait être autre chose, nous n'en savons rien. Reportons-nous à Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Je ne sais pas si c'est un point fort dans un sens ou dans l'autre, mais c'est un point intéressant. Ecclésiaste 7, verset 1 dit, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Ainsi, le jour de la mort, dit Salomon, vaut mieux que le jour de la naissance. Le commentaire de Sun Sino, c'est un commentaire juif, et Sun Sino n'est pas nécessairement le meilleur dans tous les cas. Il donne une perspective juive. Et parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. C'est intéressant à lire, mais je vérifierai certainement avec d'autres commentaires. Mais l'idée est qu'il vaut mieux bien finir sa vie que la commencer. Il donne l'exemple d'un rabbin qui a dit que deux bateaux sont dans le port. L'un d'eux arrive et vient de terminer son voyage, et l'autre s'en va. N'est-il pas intéressant de constater que lorsqu'un navire part, et je me souviens de ce départ de New York en 1957 à bord d'un navire, et on voit cela dans les vieux films, il y a des cordes de confetti et tout le reste, et tout le monde est heureux, et il crie « Bon voyage !» Et tout le monde célèbre le départ du navire. Et puis l'autre navire arrive, et rien. Personne ne célèbre. Ce que le rabbin voulait dire, c'est qu'en réalité, le bateau qui part n'a aucune idée de ce qui l'attend. Les tempêtes qu'il va affronter, les difficultés qui vont survenir, peut-être le naufrage quelque part. On pourrait penser que lorsqu'un navire arrive à bon port, les gens seraient heureux. Mais non, nous inversons en quelque sorte les choses. Nous célébrons le départ, mais pas l'arrivée. Nous devrions évidemment célébrer la naissance d'un nouvel enfant. Je pense que pour le monde, c'est un jour merveilleux et joyeux. Je n'étais pas là, enfin, j'étais là, je suppose, mais je n'en étais pas conscient de ce qui s'est passé à ma naissance. Mais je pense que mes parents étaient probablement très heureux. Ils avaient probablement beaucoup de sourires, je suppose que c'est le cas. Et c'est probablement la même chose pour vous. La raison pour laquelle nous discernons cela est que nous voyons d'autres personnes avoir des enfants, comment ils sont heureux, et parfois nous avons nos propres enfants et nous en sommes heureux. Et lorsque nous mourrons, nous portons le deuil, et c'est approprié, c'est la bonne chose à faire, c'est un moment de deuil. Mais ce qu'il dit ici, verset 1, est une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et ce bon nom n'est pas nécessairement le nom que nous avons dans notre réputation parmi les hommes, mais notre réputation auprès de Dieu. Il est bon d'avoir un bon nom parmi les hommes, oui, mais plus important encore, d'avoir un bon nom auprès de Dieu. Parce qu'il y a des gens, regardez les prophètes, qui n'avaient pas nécessairement une bonne réputation auprès de la majorité des gens. Quand vous regardez les deux témoins, ils auront un bon nom auprès de Dieu, mais ils n'auront pas un bon nom auprès de ce monde. Mais une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons à la fin, Dieu sait où nous nous trouvons et ce qu'il en est. Nous sommes au seuil de l'éternité. C'est le sens de ce verset. Mais parfois, nous avons les choses à l'envers. Encore une fois, c'est juste et c'est bien. Je pense qu'à la naissance de Jésus, il y a eu une grande célébration. Et c'est une bonne chose, c'était approprié. Mais en même temps, nous devons garder les choses dans une juste perspective. Chaque fois que la date de la naissance d'une personne se présente, est-ce un moment de célébration? Le journal de novembre-décembre 2018, le journal de novembre-décembre 2018, contient un article intitulé « Qu'est-ce qui motive vos décisions? » Et il cite la 11e édition de l'Encyclopédie Britannica dans un article sur le sujet de Noël. Maintenant, c'est quelque chose à regarder dans l'ensemble de l'image ici. L'encyclopédie cite Origène. L'encyclopédie dit « aussi tard que 245 après Jésus-Christ », c'est-à-dire plus de 200 ans après la mort du Christ et de sa résurrection, Origène n'était pas un serviteur de Dieu. Il était, vous le savez, du mauvais christianisme, un christianisme de façade, un faux christianisme. Mais il dit, aussi tard qu'en 245, Origène rejetait comme péché l'idée de célébrer l'anniversaire du Christ, comme s'il était un pharaon. Fin de la citation. Ainsi, dans cet article, l'auteur dit Origène n'était pas un vrai chrétien, mais son commentaire révèle la position de l'Église primitive à l'égard de la célébration de l'anniversaire de naissance du Christ, et cela nous donne un indice sur la position adoptée par le christianisme originel par rapport aux anniversaires en général. Nous pouvons dire que Pharaon et Hérode organisaient de grandes fêtes. C'est vrai, ils avaient des célébrations qui allaient bien au-delà de ce que vous et moi pouvons faire. Mais c'est une question de voir l'intention quand on y regarde de plus près. Il s'agit de célébrer le fait que, d'une certaine manière, c'est mon jour. C'est un jour où tout le monde devrait se tourner vers moi et me faire des cadeaux, etc. Mais l'histoire montre clairement que l'Église primitive ne célébrait pas les anniversaires de naissance. Et la date de naissance, la date réelle de naissance ou la célébration d'un anniversaire de naissance de n'importe quel serviteur de Dieu n'est jamais, pas une seule fois, mentionnée dans les Écritures. Nous savons que Jésus est né et que c'était une période heureuse, c'était une période joyeuse lorsqu'il est né. D'autres, lorsqu'ils sont nés, ont évidemment fait l'objet d'une grande célébration. Mais pour ce qui est de la célébration annuelle de cette naissance, vous pouvez lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et nous ne trouverons jamais cela chez un serviteur de Dieu. Il n'y a que des païens qui célèbrent les anniversaires de naissance. Nous devons nous demander pourquoi. Et pourquoi Dieu a-t-il caché la date réelle de la naissance du Christ? Nous savons qu'il est né. Mais pourquoi Dieu a-t-il caché la date de sa naissance? Nous savons qu'il connaissait leur âge. Nous lisons des articles sur les rois et leur âge. Nous le savons. Mais même le Christ, quand il commença son ministère, il est dit qu'il était âgé d'environ 30 ans. Nous ne le savons pas exactement. Nous savons que les sacrificateurs devaient avoir un certain âge, 30 ans, pour accéder au sacerdoce. Ils devaient donc connaître leur âge. Était-il exact dans ce domaine? Lorsque nous examinons les fruits des célébrations d'anniversaire modernes, nous constatons qu'ils sont célébrés avec des bougies et qu'ils font un vœu. Je ne pense pas que ce soit la plus grande forme de sorcellerie ou d'idolâtrie, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Vous avez des bougies, le nombre de bougies que vous avez, si vous avez 13 ans, vous avez 13 bougies. Alors faites un vœu et soufflez les bougies. Y avons-nous déjà réfléchi? Souhaitons-nous quelque chose à Dieu? Est-ce qu'on fait un vœu quel qu'il soit? En général, ce n'est probablement pas, je ne sais pas, je sais lorsque je faisais ce genre de choses. Je devais faire un vœu, je ne me souviens pas d'avoir fait aucun vœu, mais cela ne devait pas être trop sérieux. Peut-être que les gens prennent ces choses plus au sérieux que moi, mais tout de même, pourquoi faisons-nous cela? Je me souviens lorsque nous nous sommes mariés, il y avait des superstitions selon lesquelles la mariée devait porter quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu, quelque chose de nouveau. Et sa tante voulait qu'elle porte cela. Je lui ai dit non. Vous voulez perpétuer une superstition qui va, je suppose, faire durer notre mariage plus longtemps? Je ne sais pas quel était le but de cette superstition. Il y a parfois des choses qui se passent lors des mariages et dont on se demande ce qui se passe. Vous savez, il y a la jarretière de la femme et l'homme doit l'enlever et le lancer, ou la tradition de lancer le bouquet. Ce ne sont que des superstitions que nous avons. Et nous devons nous y arrêter et réfléchir. Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Et qui dirige ces choses dans la vie? Il est intéressant de constater que lorsqu'un bébé atteint l'âge d'un an, de 2 ans ou même 3 ans, la mère, la grand-mère ou les grands-parents veulent organiser une fête d'anniversaire pour cet enfant. C'est un peu comme offrir un gâteau d'anniversaire. Je pense que ceci pourrait être mal compris. À Kansas City, il y a un endroit qui s'appelle le Country Club Plaza. Il y avait là un petit magasin merveilleux qui proposait toutes ces petites merveilles, comment les appelez-vous, des jeux de mots sur les chiens. Au lieu de petits fours, c'est une boulangerie. Il y avait des petits fours pour les chiots. Ils avaient, oh, qu'est-ce que c'était? Je le savais ce matin en y pensant. Mais il y avait tous ces jeux de mots. Et ils avaient des gâteaux d'anniversaire pour les chiens. Les gâteaux d'anniversaire n'étaient pas faits avec du chocolat. Elles sont faites avec du caroube, parce que le chocolat tuerait probablement le chien. Il ne le supporte pas très bien. Et j'ai vu une dame demander ou parler, comment appelle-t-on ça, une truffe? Elles appelaient ça des volants au lieu d'une truffe. Vous savez, une petite boule ronde de caroube, peu importe de ce que c'était. Et elle l'a donnée à son chien. Et le chien l'a englouti si rapidement que je ne pense pas qu'il ait eu la moindre idée de ce qu'il mangeait. Et je vous garantis que si un chien a un anniversaire, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il se dit simplement, « Waouh, c'est mon jour de chance. » Il n'a aucune idée que c'est le jour de sa naissance, si même quelqu'un le sait. Vous savez, les gens font ce genre de choses pour leur chien. C'est la même chose. Je ne veux pas mettre votre enfant d'un an sur le même plan qu'un chien. Mais le fait est qu'un enfant d'un an n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors, à qui cela s'adresse-t-il? À qui cela s'adresse-t-il? Nous faisons ces choses et nous formons ensuite nos enfants à s'attendre à ce que, ce jour-là, « Wow, je vais faire une fête, les gens vont m'apporter des cadeaux, je suis le roi de la montagne pour ce jour-là. » Lorsque l'Église a commencé à déraper un peu, une dame m'a appelé et elle m'a dit que sa fille de 16 ans était très contrariée parce qu'elle voulait faire une fête. Elle voulait inviter tous ses amis et sa mère avait dit non, mais elle insistait. Et je lui ai dit, « Oubliez le fait que c'est son anniversaire. » Elle dit, « Je veux ça pour moi. Je veux que tous mes amis viennent m'offrir des cadeaux et tout le reste. » Son attitude n'était pas bonne. Elle désobéissait à sa mère, elle lui manquait de respect, parce qu'elle n'arrivait pas à ses fins. Mais c'est le genre de choses qui ont tendance à s'accumuler, du moins dans la vie de certains, voire de beaucoup. Les médias sociaux en sont un autre exemple. Ils connaissent votre date d'anniversaire, parce que vous l'avez probablement inscrite à un moment ou à un autre. Et donc, à chaque fois que cela se produit, boum, cela apparaît, joyeux anniversaire! Et tout le monde s'y met, joyeux anniversaire, un tel. Est-ce la pire chose qui puisse arriver? Je ne le crois pas. Mais en même temps, pourquoi se précipite-t-on sur ce genre de choses? Nous sommes des moutons. Nous sommes vraiment des moutons. Un nouveau produit sort et très vite, tout le monde l'achète. Tout le monde s'y met. Nous n'avons aucune idée, dans ce sens, de qui est le prince de la puissance de l'air et comment il dirige le cours de ce monde. Lorsque nous regardons les médias sociaux, il y a un très bon article sur le sujet, un commentaire publié aujourd'hui par M. Richard Franz. Je l'ai vu ce matin. L'IA, votre nouvelle amie. Et ce que nous découvrons, et cela a été mentionné à plusieurs reprises, c'est que vous pouvez vous créer votre propre ami sur l'IA qui vous parlera, qui vous conseillera, qui sera votre psychologue et qui sera votre ami. Et vous savez, les faux amis peuvent être problématiques, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'une vraie personne. Des autorités ont déclaré « cela n'est pas sain ». Cela ne résout pas vraiment les problèmes qui existent, mais les gens sautent dans le train parce que tout le monde le fait. Et ces choses ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Lorsque nous regardons les anniversaires de naissance dans la Bible, le fait qu'il soit absent, le fait que le calendrier biblique ou le calendrier hébreu, comme nous l'appelons parfois, ne se prête pas à la célébration des anniversaires de naissance, parce qu'environ 8 années sur 19, nous avons un 13e mois, Il y a donc un mois supplémentaire. Ils ont parfois un jour de plus, selon la façon dont ils ont établi le calendrier. Il y a donc des problèmes de ce côté-là. Si vous êtes né le 13e mois, vous êtes un peu exclu, non? Je suppose que vous pourriez célébrer votre naissance le dernier jour du mois précédent, le 12e mois, mais cela ne s'y prête pas. Je pense donc qu'il faut dire qu'en général, la célébration des anniversaires de naissance semble être une pratique plus proche des païens que des Israélites. Alors, quelle est la conclusion de cette affaire? Eh bien, Dieu nous donne des exemples clairs de célébration de jours spéciaux, et il nous donne les jours saints. Cela signifie-t-il que d'autres jours ne peuvent pas être célébrés? Non, car nous avons des exemples très clairs. Pourim n'est pas un jour saint en tant que tel, mais c'est la célébration d'une grande victoire dans le livre d'Esther. D'autres jours sont célébrés. Nous avons ici, dans ce pays, le 4 de juillet. Nous avons aussi Thanksgiving ou l'Action de grâce. Il y a la fête du Canada au Canada. Il y a d'autres jours dans le monde. Mais il y a quelque chose dans les célébrations d'anniversaire que la Bible mentionne. Et pas sous l'angle le plus flatteur. La Bible est la pensée de Dieu. Comme je l'ai dit, certaines choses ne sont pas explicitement mentionnées, mais peuvent être discernées. Maintenant, considérez les merveilleuses bénédictions auxquelles Dieu nous appelle. Parfois, nous regardons ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne pouvons pas faire, mais pensez aux choses que Dieu nous donne. Il nous donne les jours de fête qui ont une véritable signification. Nous avons, par exemple, la fête des tabernacles, que nous commençons tous à attendre avec impatience et à nous préparer. Je me souviens d'une jeune femme de Caroline du Nord. En fait, c'était la tante, pas la mère, qui nous parlait de venir à l'église. Je ne pense pas qu'elle l'ait jamais fait, si je me souviens bien, c'était juste avant notre départ. Mais sa nièce était là. Sa nièce avait 12 ou 13 ans, et cette femme parlait de Noël. Elle ne savait pas comment elle pourrait renoncer à Noël pour les enfants. Et à un moment donné dans la conversation, nous avons réalisé que la nièce était allée avec sa mère à la fête des tabernacles. Je ne me souviens pas de toutes les circonstances, mais elle était déjà allée à la fête des tabernacles. Et bien sûr, elle a grandi avec Noël. Je l'ai donc regardée et je lui ai dit, « Si tu avais le choix, est-ce que tu garderais Noël ou la fête des tabernacles? » Et elle m'a répondu, « Oh, je garderai la fête des tabernacles. » C'est 8 jours, vous savez, pas un. Cet enfant avait le choix. Elle avait fait les deux, et elle choisissait la fête des tabernacles. Lorsque nous regardons ce que Dieu nous donne, nous avons la possibilité d'éviter les fêtes mondaines et toutes leurs folies, Noël, Halloween, les Pâques, etc. Nous avons la possibilité de connaître le but de la vie. Pensez à tout ce que Dieu nous a donné. Que donneriez-vous en échange de savoir pourquoi vous êtes ici? Dieu nous donne tant. Et si souvent nous regardons ce que nous n'avons pas au lieu de regarder ce que nous avons. Dans le psaume 119, verset 97, remarquez qu'il s'agit de certains des avantages que Dieu nous donne, qu'il donne à nos enfants ainsi qu'à ceux d'entre nous qui sont adultes. Il nous dit au verset 97 « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 98, psaume 119, verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Ils sont toujours là. Tu me rends plus sage que mes ennemis. » Verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. » Plus que les personnes plus âgées que moi. Peut-être votre grand-père ou votre grand-mère. Cela ne veut pas dire que vous en savez plus sur tout, mais vous en savez plus sur les choses importantes de la vie. Vous savez quand est le sabbat. Vous savez quel est le but de la vie. Et si vous lisez les proverbes, vous y trouverez une grande sagesse qui dépasse votre âge. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Vous pourriez lire plus loin dans le premier psaume. Le contraste entre la voie de l'homme et suivre la voie de Dieu, qui est bien mieux, bien sûr. Quand on pense à tous les avantages que nous avons une meilleure vue d'ensemble du monde et vers quoi il se dirige. Je n'ai jamais aimé l'histoire jusqu'à ce que j'entre dans l'Église. C'est alors que j'ai commencé à comprendre les quatre grands empires et comment le quatrième allait connaître tant de restaurations. Et tout à coup, j'ai eu un tableau dans lequel j'ai pu placer certains événements. Auparavant, je n'avais que tous ces événements sans contexte. Maintenant, j'avais un contexte. Nous avons part à une excellente éducation qui nous permet de comprendre la vision globale de l'histoire. Nous avons pour nos jeunes les camps d'été dont l'objectif ne se limite pas à s'amuser. Nous voulons qu'ils s'amusent, oui, mais il y a un but derrière. Nous essayons de leur enseigner un mode de vie, et quand je regarde nos jeunes, comment ils s'habillent, comment un garçon s'habille pour pouvoir accompagner une jeune fille à une danse ou à une activité, et qu'ensuite je regarde dans le monde et que je vois que ces femmes sont habillées à la perfection dans un bon restaurant et que le garçon porte un short et une casquette de baseball, et je me dis, oh là là, comme il vaudrait mieux que nos garçons respectent suffisamment les filles pour s'habiller correctement. Et nous respectons Dieu quand nous allons à l'Assemblée. Et ce n'est pas le cas dans plusieurs églises aujourd'hui où les membres préfèrent de ne pas s'habiller convenablement pour ne pas se compliquer la vie. Ce qui compte, c'est ce que je ressens plutôt que le respect de Dieu. Vous savez, nous avons besoin d'un changement d'attitude à certains égards. Certains parents le font. Je ne parle pas de tout le monde. Mais nous disons souvent, l'Église ne nous permet pas de faire cela ou l'Église ne fait pas cela. Pourquoi ne pas être courageux dans nos propres foyers et dire « voilà ce que nous faisons et voilà pourquoi nous le faisons » au lieu de dire « nous ne pouvons pas, penser à toutes les choses que nous pouvons faire ». Nous ne voulons pas nous juger les uns les autres. Mais je pense que M. Wenell l'a très bien exprimé, et je suppose que cela dépend de la définition que vous donnez à ces termes. Mais au moins chez lui, on reconnaissait que quelqu'un avait un an de plus. Il faisait un repas familial privé et il faisait savoir aux jeunes qu'ils étaient heureux qu'ils soient leur enfant. Mais il y a une différence entre une reconnaissance parent-enfant et une célébration où nous invitons tout le monde, offrons des cadeaux à cette personne et donnons-lui l'impression qu'elle est quelque chose de spécial. En grandissant, les enfants commencent à s'attendre à ce genre de choses, comme si on leur devait quelque chose. Je pense donc que la façon dont nous avons présenté les choses est la suivante. Il n'y a rien de mal à reconnaître ceci au sein de la famille. Cette approche semble cohérente avec la manière dont l'Église a compris l'approche biblique du sujet dans le passé et même aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à discerner dans la Bible quelle est la pensée de Dieu. Pourquoi ne lit-on jamais qu'un serviteur de Dieu célèbre son anniversaire de naissance? La Bible ne nous dit pas le jour, ni même s'il l'a célébré. Nous ne le lisons nulle part. Pourquoi le calendrier hébraïque n'est-il pas cohérent avec les célébrations des anniversaires de naissance? Pourquoi l'Église a-t-elle historiquement désapprouvé ces choses et s'est-elle concentrée sur les grands événements, les vrais événements? Les jours saints, le sabbat, toutes les choses que nous avons et toutes les bénédictions que nous avons au lieu de simplement suivre le monde dans sa façon de faire les choses. Beaucoup de ces célébrations ne sont pas toujours si innocentes comme je l'ai appris au fil des ans. Mais il y en a beaucoup. Et les gens sont très sincères dans ce qu'ils font, nous ne voulons pas les condamner. Nous devons donc faire attention à ne pas juger les autres. Examinons le sujet dans son ensemble et apprenons à porter des jugements justes sur les anniversaires de naissance et sur tout ce que nous faisons.